Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le mois de mars dans lequel nous sommes est consacré à honorer Saint-Joseph, avec au sommet la fête d'aujourd'hui. À première vue, pour beaucoup de personnes, Saint-Joseph a eu un rôle tellement effacé extérieurement qu'il paraît être un saint un peu secondaire. Il n'a pas fait de miracles, il n'a pas prêché, il a passé sa vie à travailler dans un humble village de Palestine. Bien sûr, il ne faut pas en rester aux apparences extérieures, puisque la liturgie a élevé la fête de Saint-Joseph non seulement à une fête de première classe, mais aussi au rang d'une fête d'obligation pour l'Église universelle. Ne l'oublions pas maintenant que cela a été supprimé par des gouvernements antichrétiens. Et puis, c'est Saint-Joseph aussi que Pie IX a choisi comme patron de l'Église universelle. Il aurait pu prendre Saint-Pierre, mais Saint-Joseph est au-dessus de Saint-Pierre. On doit même dire qu'après la Vierge Marie, Saint-Joseph est le plus grand de tous les saints. Il est vrai que notre Seigneur a dit que parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais notre Seigneur parlait ici des prophètes. Et effectivement, Saint Jean-Baptiste, sans conteste, est le plus grand des prophètes, puisqu'il a eu le privilège de montrer du doigt le Sauveur du monde alors que les autres n'avaient fait que l'annoncer. La grandeur inégalée de Saint Joseph vient des rapports intimes qu'il a entretenus avec notre Seigneur et Notre-Dame, donc avec les mystères de l'incarnation et de la rédemption. Le père Garrigou Lagrange dit que la mission de Saint Joseph dépasse l'ordre de la nature humaine et même de la nature angélique. Et il continue en disant que la mission de Saint Joseph dépasse aussi l'ordre de la grâce. Cela, c'est l'ordre des apôtres et de leurs successeurs, les évêques, les prêtres, qui communiquent la grâce, la vie divine aux âmes, par les sacrements, après les avoir enseignés, par leur prédication. Mais pour Saint Joseph, sa mission est beaucoup plus grande encore, car sa mission se termine au mystère de l'incarnation. On dit qu'elle se termine à l'ordre hypostatique, un nom qui vient d'un mot grec que l'on traduit par hypostase et qui signifie personne. L'union hypostatique, il faut le savoir, c'est l'union de la nature humaine de notre Seigneur et de sa nature divine en une seule personne qui est la seconde personne de la Sainte Trinité. Deux natures, une personne. Quels sont d'abord alors les rapports entre Saint Joseph et Notre-Dame? En premier lieu, il faut dire qu'ils étaient unis par un vrai mariage. Parce que, dit saint Thomas d'Aquin, l'un et l'autre ont consenti à mener une vie conjugale, exception faite de l'acte conjugal lui-même, qui n'eût été accompli, dit saint Thomas, que sous cette condition, le bon plaisir de Dieu. En s'adressant à Joseph, nous l'avons entendu il y a quelques instants, l'ange lui dit d'ailleurs « Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse ». En donnant son consentement à ce mariage virginal avec Notre-Dame, eh bien saint Joseph préservait, gardait pour le salut du monde cette virginité de Marie qui allait permettre au Verbe de Dieu de s'unir à une nature humaine, ce qui fit de Notre-Dame la Mère de Dieu. Et le pape Léon XIII va jusqu'à dire que saint Joseph étant uni à la Vierge Marie par le lien indissoluble du mariage, saint Joseph devenait alors participant de cette dignité de Mère de Dieu qui place Notre-Dame incomparablement au-dessus des hommes et des anges. Personne n'ayant pu et ne pouvant jamais approcher la Vierge Marie de si près, saint Joseph est le modèle le plus parfait de la piété mariale. Et nous pouvons lui demander de nous enseigner cette dévotion mariale. Quel modèle d'époux aussi nous trouvons en lui? Le père Garrigou Lagrange écrit que Saint Joseph a aimé la Vierge Marie de l'amour le plus pur, le plus dévoué, d'un amour théologal, parce qu'il l'aimait en Dieu et pour Dieu. C'est cela la charité conjugale. C'était l'union sans tache, la plus respectueuse, avec la créature la plus parfaite qui fut jamais, dans le cadre le plus simple, celui d'un pauvre artisan de village. Quant à ses rapports avec Jésus, Saint Joseph peut être appelé réellement son Père. S'il n'était pas Père selon la nature, puisque c'est le Saint-Esprit qui avait conçu l'enfant Jésus dans le sein de Notre-Dame, on doit dire que Saint Joseph, l'Église dit que Saint Joseph est Père de Jésus par droit de mariage, parce que l'enfant est né au sein du mariage entre Saint Joseph et la Vierge Marie. L'enfant qui naît d'un mariage légitime appartient aux deux conjoints, même si ici la conception a été miraculeuse. Et l'Église emploie un terme pour désigner cette paternité réelle, mais tout à fait unique de Saint Joseph. L'Église dit qu'il est le père nourricier de Jésus. Cela indique qu'il a pris le relais, en quelque sorte, après la conception par le Saint-Esprit. Saint Joseph a donc eu pour tâche de nourrir l'enfant conçu par le Saint-Esprit. Il l'a nourri par son humble travail de charpentier dans l'atelier de Nazareth. Mais le Père n'est pas seulement cause de la nourriture du corps de son enfant, dit le pape Pie XI. Il est aussi cause de son instruction. C'est-à-dire, il ne nourrit pas seulement le corps, il nourrit aussi l'âme de son enfant. D'ailleurs, l'éducation des enfants appartient à la fin première du mariage. Elle est même la tâche la plus importante et la plus délicate des époux. Et ici encore, la mission de Saint Joseph dépasse tout ce qui peut se produire pour n'importe quel homme. Le sommet de la dignité d'un homme sur cette terre, c'est la papauté. La fonction du pape, c'est d'être le vicaire du Christ, c'est-à-dire celui qui, sur terre, tient la place du Christ, le représente au-dessus de tous les hommes et de tous les gouvernants. Et c'est ce que symbolise la tiare que les papes de Vatican II refusent de porter depuis Paul VI. Saint Joseph, seul entre toutes les créatures, Saint Joseph ne fut pas le vicaire du Christ auprès des hommes, il fut le vicaire de Dieu le Père auprès du Christ, tenant la place de Dieu le Père, auprès du Verbe incarné. Le père Garrigou Lagrange dit que Saint Joseph a été prédestiné à servir de père au Sauveur qui ne pouvait pas en avoir ici-bas puisqu'il avait été conçu du Saint-Esprit. Saint Joseph était donc pour Jésus l'image sensible de son Père du ciel. Image d'abord de la sainteté du Père éternel. Cum esset justus, avons-nous entendu dans l'Évangile, alors qu'il était juste, c'est-à-dire saint, mais d'une sainteté exceptionnelle. Dieu le Père s'est choisi un homme qui l'a fait l'image de sa sainteté, afin qu'il soit la protection non seulement de la très sainte Vierge, mais aussi de son Fils qui l'engendre éternellement. Dans le plan divin, Saint Joseph devait être aussi l'image de l'amour du Père éternel pour son Fils. On sait que Dieu le Père réside dans toute âme en état de grâce, avec le Fils et le Saint-Esprit. Mais ici, Dieu le Père résidait dans l'âme de Saint Joseph pour aimer son Fils incarné. Saint Joseph devait donc se configurer à l'amour du Père éternel pour son Fils, afin d'en être l'image pour Jésus, afin que Dieu le Père aime Jésus à travers Joseph. Enfin, pour pouvoir exercer son autorité de Père sur Jésus, Saint Joseph devait être l'image de la sagesse et de la prudence du Père éternel. Quelle sagesse admirable Saint Joseph a-t-il dû recevoir pour donner des ordres à celui qui était la sagesse éternelle? Et il ne pouvait en être autrement, au risque d'exposer Jésus à désobéir à celui qui tenait la place de son Père du ciel, c'est impensable, ou alors en lui obéissant à manquer au plan de Dieu. Tout cela est impossible, donc il lui fallait cette sagesse supérieure. Saint Joseph est ici alors le modèle parfait, le patron de tous les pères de famille. Mais non seulement des pères de famille, mais aussi de tous ceux qui ont à exercer une autorité ici-bas. Parce que toute autorité est une participation de la paternité de Dieu, qui pour bien s'exercer exige la sainteté, la charité envers les inférieurs et la sagesse. Ce sont les trois qualités de l'autorité telles que le bon Dieu les veut. Et puisque Saint Joseph était revêtu de l'autorité du Père à l'égard de Jésus, tenant la place de son Père céleste, cela impliquait que le devoir de Jésus était de lui obéir. Qui pourrait dire alors le grand respect que notre Seigneur avait pour Saint Joseph, regardant à travers lui son Père éternel? Lui qui dira plus tard à ses apôtres que sa nourriture était de faire la volonté de son Père qui est aux cieux. Et puis, chers enfants qui êtes ici dans cette église, écoutez tous maintenant, car cela vous concerne. Pour aller au ciel, il faut ressembler à Jésus. À Jésus quand il avait votre âge et qu'il obéissait à Saint Joseph. Le chemin du ciel, c'est l'obéissance. Époux virginal de la Vierge Marie, père nourricier de l'enfant Jésus, Saint Joseph était le chef de la Sainte Famille. Monseigneur Gay, évêque auxiliaire du cardinal Pie, a ici de très belles lignes. Qui ne sent, dit-il, que le ciel est là, sur terre, à Nazareth, et que cette humble et ignorée maison est plus grande que le monde, plus sainte que le temple de Jérusalem, plus heureuse même que le ciel, où le bon Dieu a bien l'armée entière de ses bons anges, mais où il n'a encore ni Jésus ni Marie, puisqu'ils sont encore sur terre. Mais sur terre, il y a Saint Joseph, lui, avec Jésus et Marie. Il est dans cette maison de Nazareth. Il y est chez lui. C'est sa maison. Il y vit. Il y travaille, il y prie, il y mange, il y dort, il y commande, il y est le Seigneur obéi et respecté, il y est le Père très aimé et l'image vive et consacrée du Père éternel. Et Monseigneur Gay termine en disant « Les proportions de Joseph dépassent celles des êtres terrestres. Cet homme est placé comme sur le seuil de la divinité. » Alors tout cela l'éloigne-t-il de nous? Au contraire, plus les saints sont proches de Dieu, plus ils sont puissants pour nous secourir. Les dons de Dieu sont sans repentance. Saint Joseph a été le gardien et le protecteur de l'enfant Jésus et de Notre-Dame, qui avec lui était l'Église en germe, l'Église qui commençait. Du haut du ciel maintenant, Il est le gardien et le protecteur de l'Église répandue à travers toute la terre et de l'Église dans tous ses membres. Ces litanies l'invoquent comme modèle de tous ceux qui sont voués au travail, gardien des vierges, on peut dire donc de toutes les personnes consacrées, soutien des familles, consolation des malheureux, espoir des malades, patron des mourants. Les autres saints semblent avoir reçu de Dieu le pouvoir de nous assister dans une nécessité spéciale, dit sainte Thérèse d'Avila. Mais ce glorieux saint, je le sais par expérience, ce glorieux saint nous assiste dans tous nos besoins. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que s'il a été soumis sur la terre à celui qui l'appelait son Père, parce que c'était son gouverneur qui pouvait lui commander, eh bien notre Seigneur déferle également au ciel à toutes ses suppliques. Et la sainte continue en disant « Je voudrais persuader à toutes les âmes qu'elles doivent porter de la dévotion à ce glorieux saint. Une longue expérience m'a montré les grâces qu'il nous obtient de Dieu. Je n'ai pas connu une seule personne ayant pour lui une dévotion vraie et l'honorant d'un culte particulier que je ne l'ai vu plus avancer dans la vertu. Il fait progresser d'une manière admirable les âmes qui se recommandent à lui. Alors, allons à Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.